gratuit.
Voici les titres du journal.
Des bateaux historiques immobilisés, mais des promesses tenues. Comment la CGN compte-t-elle éviter que les pannes de 2025 ne se reproduisent ? Réponse dans un instant dans ce journal. Et si la CGN prépare l'avenir de sa flotte, la Commission internationale de la protection des eaux du Léman dévoile un nouvel outil pour mieux protéger le lac face aux défis environnementaux. Camping sauvage en Suisse ? Oui, mais le TCS profite de la période estivale pour rappeler les bonnes pratiques.
Beau et très chaud. C'est le programme météo de ce lundi et même de demain mardi, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Martine Wüstiner. Bonjour Martine.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Des véhicules ont pris feu ce matin sur le parking de la concession du garage automobile Ecker à Colombey-Murat. La situation vient d'être maîtrisée. Le service du feu est en phase de repli. La circulation dans le secteur est à nouveau ouverte.
Des défis mais aussi de grandes ambitions.
Malgré une année 2025 marquée par l'indisponibilité de plusieurs bateaux historiques et des incertitudes sur certaines lignes transfrontalières, la CGN affirme avoir maintenu le cap. La compagnie a transporté 2,64 millions de passagers l'an dernier et assure avoir tiré les leçons des difficultés rencontrées sur sa flotte Belle Époque. Benoît Gaillard, président du conseil d'administration de la CGN.
Les promesses faites l'année passée ont été tenues, c'est-à-dire qu'on a des bateaux à vapeur qui reviennent à l'horaire cette année avec le Montreux, le Savoie, le Rhône, donc trois bateaux à vapeur qui navigueront en plus de nos bateaux diesel électriques, donc qui ont des roues à aubes mais qui n'ont plus leur machine à vapeur sur le lac. Donc je dirais que les promesses ont été tenues, il y a eu simplement un cumul d'entretiens et de pannes inattendues qui ont effectivement péjoré un petit peu l'horaire en 2025. J'aime bien raconter l'histoire qu'il y a derrière et j'aimerais peut-être le dire ici. Ce qui s'est passé par exemple, c'est qu'on a le bateau Savoie qui a été hors de l'eau pour un entretien normal. On s'aperçoit que la coque est un peu plus endommagée, un peu plus fragilisée par le temps que ce qu'on imaginait. On se dit, bon, tant qu'il soit hors de l'eau, autant faire un petit peu plus, pousser les travaux sur la coque un peu plus loin. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a une panne sur la machine à vapeur de la Suisse qui fait que la Suisse est aussi indisponible. Donc quelque part, ça partait d'une bonne volonté, plutôt celle d'améliorer l'entretien sur un bateau comme le Savoie, mais évidemment comme l'ensemble de notre flotte a une certaine fragilité, la flotte historique due à son âge, ça peut arriver qu'il y ait comme ça des cumuls qui soient désagréables. Mais en conclusion, j'aimerais vraiment dire sur ce bilan 2025, on a eu un cumul qui est malheureux. Aujourd'hui, on est en train de changer notre logique d'entretien justement en essayant d'entretenir de manière plus proactive pour éviter si possible ces pannes. Et puis, encore une fois, les promesses ont été tenues. On a trois bateaux à vapeur à l'horaire durant cet été pour le plus grand plaisir des personnes qui souhaitent naviguer sur le Léman.
C'était un sujet de Julie Guay.
Et sur ce même Léman, un autre acteur prépare aussi l'avenir.
La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, la CIPEL, dresse un bilan à mi-parcours de son plan d'action 2021-2030. L'une des principales réussites concerne la lutte contre le phosphore, responsable autrefois d'une forte prolifération d'algues. Grâce aux investissements réalisés depuis plusieurs décennies, les concentrations sont désormais revenues à un niveau maîtrisé. Pour mieux faire face aux défis à venir, la CIPEL prépare désormais un nouvel outil destiné autant aux autorités qu'au grand public. Nicole Galina, secrétaire générale de la CIPEL.
On va mettre en place un observatoire du Léman. Cet observatoire du Léman, c'est donc une plateforme dynamique qui permet de récolter donc toutes les données qui étaient récoltées à la CIPEL. C'est donc un des lacs les plus étudiés. Donc il y a une base de données qui est extrêmement riche, mais également plein d'études pour comprendre au mieux cet écosystème. Et l'idée, c'est donc de faire cette plateforme interactive où on aurait également des indicateurs que tout et chacun pourrait suivre. Et l'idée, c'est de vraiment renseigner le grand public, mais également les décideurs politiques et publics pour prendre des bonnes mesures, pour protéger au mieux le Léman, pour garantir cette qualité de l'eau, parce que sans qualité de l'eau, même la plus grande quantité ne sert à plus rien.
L'Observatoire du Léman devrait ouvrir ses portes durant l'été 2027, un sujet réalisé par Julie Guay.
Les auditions devant le ministère public dans l'affaire du drame de Crans-Montana reprennent cette semaine.
Deux figures à l'agenda. Demain, celle de l'ancien vice-président de Cher-Mignon et jeudi, celle de l'ex-président de la commune, toujours entre 2013 et 2016. Le 15e prévenu du drame du Constellation sera entendu pour la première fois demain matin à Sion. En 2015, ce nouveau prévenu présidait la commission du feu de la commune de Cher-Mignon. Son audition permettra de faire un peu plus la lumière sur les travaux d'envergure effectués par Jessica et Jacques Moretti lorsqu'ils sont devenus gérants du Constellation un peu plus de 10 ans avant le drame. Et plus de 6 mois après ce même drame du bar, le Constellation à Crans-Montana Tourisme et Congrès ne s'attend pas à vivre un contre-coup estival de la tragédie du 1er janvier. L'association parle de réservation stable pour cet été, soulignant encore que la reprise annoncée ces dernières semaines d'un hôtel de la station et son passage de 3 à 5 étoiles, ainsi que l'ouverture annoncée d'un nouveau 4 étoiles, sont vues comme des signaux forts. La 33e édition du Verbier Festival se tiendra dès jeudi et jusqu'au 2 août dans la station du Val-de-Bagne. Au programme, une soixantaine de concerts de musique classique, dont 3 opéras, et une centaine de masterclass et de nombreux événements gratuits. Le camping sauvage est possible en Suisse, mais sous de strictes conditions. En période estivale et avec les chaleurs actuelles, le TCS rappelle les règles à suivre pour éviter les mauvaises surprises. Le camping sauvage, qui consiste à passer la nuit sous tente, en van ou en camping-car, en dehors des infrastructures officielles, gagne en popularité. Cette pratique, tout comme le bivouac d'une nuit avec un équipement minimal, permet une immersion directe dans la nature. Pour que l'expérience soit réussie, le respect de l'environnement et des règles de sécurité est primordial, rappelle aujourd'hui le TCS. Notez également que les prescriptions peuvent changer non seulement d'un canton à l'autre, mais aussi entre les communes. Le TCS recommande donc de contacter la commune ou la police locale avant de s'installer pour la nuit.
L'agriculture suisse est de moins en moins en mesure de couvrir les besoins de la population avec sa propre production.
Cette année en Suisse, le Food Overshoot Day, jour du dépassement, tombe le 13 juillet, soit plus tôt que jamais. À partir de cette date et jusqu'à la fin de l'année, toutes les denrées alimentaires consommées proviennent statistiquement de l'étranger. Cette situation accroît non seulement la dépendance vis-à-vis des importations, mais déplace également l'impact environnemental à l'étranger. La politique agricole 2030 doit corriger cette évolution et renforcer de manière ciblée la production alimentaire indigène. Notez à ce sujet que le 7 septembre, l'initiative pour une alimentation sûre sera soumise au vote. Celle-ci demande que le taux d'auto-approvisionnement soit porté à au moins 70%. Elle entend atteindre cet objectif en réorientant la consommation et la production vers les aliments d'origine végétale.
Et en France, un incendie hors norme s'est déclaré dans la forêt de Fontainebleau.
Deux avions bombardiers d'eau Canadair ont été déployés ce matin pour lutter contre les feux qui touchent le sud de la Seine-et-Marne, notamment la forêt de Fontainebleau, proche de la capitale française. Actuellement, les deux Canadair sont en action et plus de 500 pompiers sont attendus dans la journée avec l'ensemble des renforts. Hier déjà, deux Dash avaient été utilisés pour larguer au sol du produit retardant, un déploiement d'avions de lutte contre le feu inédit en région parisienne.
Les États-Unis ont bombardé l'Iran aujourd'hui pour le deuxième jour consécutif.
Ils affirment avoir frappé des dizaines de cibles pour nuire à son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Téhéran a riposté en visant des bases militaires du Golfe Persique utilisées par Washington. La reprise des hostilités durant le week-end et l'annonce par l'Iran d'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, ont fait repartir en forte hausse les cours du pétrole ce matin. Et l'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte Jurassic Park, est décédé aujourd'hui en Australie à l'âge de 78 ans, selon un communiqué de sa famille qui a qualifié son décès de soudain et inattendu. Et après son élimination en quart de la finale de la Coupe du Monde, l'équipe de Suisse va attaquer une nouvelle campagne qui doit la mener jusqu'à l'Euro 2028. Après la belle démonstration en Coupe du Monde, on peut se poser la question. Combien d'équipes sont encore clairement supérieures à la Suisse? Sa force collective et sa stabilité en ont fait l'une des huit meilleures équipes du monde. Il lui manque probablement quelques individualités capables de faire basculer un match. Johan Manzambi, qui a cruellement manqué face à l'Argentine, sera peut-être celui qui rapprochera un peu plus la Suisse des sommets. À la tête de la Nati, Mouratiakine, sous contrat jusqu'à l'été 2028, a confirmé sa fierté et son envie de diriger la sélection.
L'actu en continu, radiochablais.ca.